Depuis quelques années, l'industrie de la publicité semble traverser une crise existentielle dans un contexte de préoccupation écologique où les paillettes et l'argent ne sont plus porteurs de valeur. Le secteur est en plein tournant et les consommateurs mieux informés ne sont plus dupes des messages envoyés par les agences de communication. Gildas Bonnel est président de la commission développement durable de l'AACC, c'est l'association des agences conseil en communication. Il est l'invité de la Terre au Carré pour nous raconter comment justement le monde de la pub fait face à ces bouleversements et pour nous dire si une éco-communication est vraiment possible. Vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant au 01 45 24 à 7000, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Passage au vert dans un instant.
Avec le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais tout le monde n'en est pas conscient, vous l'entendrez.
Dans la deuxième demi-heure, la série d'Antoine Lee sur les mal-aimés de l'écologie, avec aujourd'hui le portrait d'un chauffeur routier. Vos solutions pour la planète, nous serons avec Mélodie, une auditrice de Pau, qui va nous parler de l'association Sans Territoire, qui s'intéresse au rapport entre la santé et les environnements de vie. Et puis enfin, nos invités découvertes sont le professeur Feuillage, alias Mathieu Duméry, et le chercheur Éric Chaumillon pour un livre intitulé « Et la mer monte » ou « La chronique d'une vague annoncée ». Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisé par Céline Hilla, avec Henri Bérec et Tristan Gratalon à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Meilleur pour votre confort, meilleur avec la nature.
Nous choisissons l'huile de palme pour préserver les arômes et l'onctuosité de... Elle provient de fruits pressés, issus d'un approvisionnement durable.
Désormais préparée avec 100% d'ingrédients naturels.
Nous choisissons de travailler main dans la main avec nos partenaires et des ONG pour assurer notre engagement de nos déforestations.
Une marque de produits nettoyants avec des ingrédients d'origine naturelle et des emballages 100% recyclés.
100% électrique, 0% d'émissions.
Les solutions miracles n'existent pas. Nous avons fait le choix de développer des énergies complémentaires, comme la biomasse, le nucléaire.
On ne peut pas vivre sans rejeter de CO2. Tâchons déjà d'en rejeter un peu moins.
Ensemble, réduisons de 20% nos émissions de CO2 d'ici à 2020.
Bonjour Gildas Bonnel.
Bonjour Mathieu.
Petit florilège de publicité, vous qui êtes président de l'agence CDS, donc une agence qui se présente comme expert de la communication des marques et des entreprises en matière de développement durable. Et vous êtes donc président de la commission RSE du syndicat professionnel des agences de communication. La RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est une autre façon de parler du développement durable ?
C'est une façon déjà un peu ancienne, un peu datée de parler du développement durable, parce qu'aujourd'hui, comme ça va vite, comme ça s'accélère, on parle plutôt de transition écologique plutôt que de développement durable. C'est un mot qui a un peu perdu de sens, mais c'est vrai que la responsabilité sociale et environnementale, c'est la traduction de ce concept pour les entreprises.
Oui. Est-ce que le monde de la pub traverse une véritable crise existentielle?
Je ne sais pas si c'est une crise existentielle, mais c'est une crise. On est en train de se réveiller, mais on est en train de se réveiller comme l'ensemble de la population française.
Donc un peu en retard par rapport à d'autres
oui,
secteurs?
Oui, un peu en retard. Les premiers secteurs d'activité qui sont rentrés, qui ont commencé à intégrer les enjeux de durabilité, c'est plutôt le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, le secteur minier, parce qu'ils étaient connectés avec le sol et le sous-sol. Ouais. Puis la transformation, les industries, parce qu'ils étaient connectés avec les matières premières, avec l'énergie. Nous, les services, on est arrivé après. Alors, la publicité, la communication et les médias, on est arrivé après le tertiaire financier, ce qui n'est pas une grande gloire, mais c'est vrai qu'on était plutôt hors sol, nous. Mmh. Et c'est plutôt les consommateurs qui nous ont réveillés. Et puis aussi le Grenelle de l'environnement qui nous a fait accélérer dans l'intégration de ces sujets.
Qu'est-ce qui a changé fondamentalement finalement dans votre secteur de la publicité depuis que les questions environnementales sont devenues des sujets prioritaires? Parce que il y a eu l'âge d'or de la pub, évidemment, les années 80, 90, et puis les choses changent là vraiment drastiquement même. Hein.
En fait, on parle de publicité, mais c'est réducteur. La publicité, c'est la partie la plus émergée, la plus visible, la plus puissante de la communication. Je pense que ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'on est dans une société qui n'a pas envie qu'on lui raconte des jolies histoires. La publicité, c'était une jolie histoire.
C'est ça, vous étiez payé pour ça.
On était payé pour des jolies histoires.
Pour nous faire rêver, pour
matin,
susciter notre désir.
Exactement. Ouais. Et puis pour faire le bling-bling, le vu à la télé, je le dis avec amitié pour tous les publicitaires qui nous ont précédés. Mais en fait, on était dans une société des 30 Glorieuses qui avait envie de ça et qui trouvait la consommation récréative. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a une consommation complètement différente, plus consciente et aussi beaucoup plus contrainte pour les Français qui sont 20% à faire leur caddie à un euro près. J'aime bien le répéter quand même.
Oui, ça c'est important aussi de le prendre en compte, évidemment. Hein, et aussi pour les annonceurs qui doivent complètement revoir leur copie aussi.
Oui, ils revoient.
Ça représente quoi pour les marques finalement, ce changement environnemental?
En fait, les marques, ou plutôt les entreprises qui ne prennent pas en compte ces sujets-là, elles sont mortes dans les prochaines années. On sait ici, sur ce plateau, on sait que ça s'accélère. Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde n'a pas la même perception de cette accélération incroyable qui est en train d'arriver à la fois sur les crises climatiques, mais aussi dans la perception et la compréhension des consommateurs citoyens. Donc aujourd'hui, on l'a vu avec Yuka, hein, avec toutes ces applications, aujourd'hui les Français sont en train d'arbitrer, ils arbitrent vite. Donc les marques et les entreprises sont en train de s'adapter. Mais je veux pas dire qu'elles sont uniquement réactives. On a aussi des entreprises qui investissent depuis très 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 longtemps sur ces sujets-là, parce qu'elles savent que ça allait arriver. Oui. Simplement, il y avait un phénomène que chez Cydiez, on aime appeler le green hiding. Désolé pour cet anglicisme affreux, mais le fait de se cacher, parce que parler vert, parler écolo pour une marque, c'était compliqué. Il y avait que des claques à prendre. Et donc, on préférait ne rien dire, préparer des produits de substitution moins impactants, mais sans le dire.
Oui. Donc il y a eu des tentatives, et elles sont encore là, elles existent encore, de greenwashing, c'est-à-dire de verdir finalement le cerveau des consommateurs. Ouais, c'est ça. Mais ça marche plus très très bien au fond. Hein.
On a eu une grosse vague de greenwashing avant et post-Grenelle, dans les années 2007-2009, où là, on s'est dit, on a lâché les chevaux, et puis voilà, on a mis des petites fleurs vertes, même à la sortie des pots d'échappement des voitures. Non, là, je pense que tout le monde a compris. D'abord, on a une régulation en France qui marche bien. Je sais qu'il y a des tas de gens qui trouvent qu'il faudrait une autorité de tutelle de l'État, mais oui. pour être plus contraignant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a, après le Grenelle de l'environnement, réformé le bureau de vérification de la publicité pour faire une autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Où sont présents d'ailleurs les publicitaires, ce qui est un petit peu gênant d'ailleurs, quasiment.
Il y a plein de gens qui
sur
disent...
Sur l'indépendance
Bien sûr, il y a plein de gens qui disent copain coquin. En tout cas, il fallait bien qu'on mette des moyens pour payer une quinzaine de juristes qui regardent une centaine de publicités tous les jours pour voir si elles sont contrevenantes ou pas. Donc je vais pas, peut-être qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de panacée, mais en tout cas en France aujourd'hui, on est quand même assez protégé parce qu'on peut pas déraper sur les textes sur lesquels on s'est mis d'accord.
Ouais. Si on prend l'exemple de quelques marques très symboliques, en tout cas en France, est-ce qu'il y a vraiment des changements flagrants aujourd'hui qui sont liés à de nouvelles façons de consommer et qui du coup impactent directement aussi la communication qu'on peut faire autour de ces produits?
En fait, on voit apparaître de nouveaux produits. On parlait tout à l'heure de Herta. Herta, qui vend du jambon, s'est mis à vendre de la protéine végétale.
C'est une marque très importante.
C'est la marque la plus choisie par les Français. C'est dans 90% des frigidaires. Hein. Donc, c'est une marque très puissante. Et tout d'un coup, voilà, on a des entreprises ou des marques qui comprennent qu'elles ont à vivre une révolution dans leur offre, et donc qui vont se mettre à avoir une autre forme de communication sur des nouveaux produits. Ça, c'est le premier cas. Mais il vous a pas échappé qu'en ce moment, à la télévision, au cinéma ou à la radio, on entend de plus en plus de discours un peu corporate, un peu institutionnels, parce que les marques et les entreprises comprennent que les Français veulent acheter des bons produits, mais aussi acheter des produits à des gens bien. Donc on parle d'équitable, on parle de Made in France, on parle de traçabilité, vous l'avez mis dans l'échantillon que vous avez passé juste avant, donc ça c'est un enjeu qui est important et qui change un peu le discours des marques.
C'est là que le greenwashing ne marche plus, c'est-à-dire qu'il faut être une entreprise qui intrinsèquement, dans sa politique même, est vertueuse aussi, non ?
Ouais, je vais pas prendre ma casquette corporatiste pour défendre toute la profession, il y a encore des sorties de route qui sont très dommageables, surtout des tas de sujets. Et ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, les Français, en tant que citoyens, on a une sensibilité différente selon qu'on est parisien ou en région, selon qu'on est agriculteur ou qu'on est on travaille dans les services, on va avoir une perception du bien et du mal qui est très différente. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils regardent différemment la nouvelle proposition de valeur de Herta sur le végétal que nous, ici à Paris, qui trouvons que c'est très bien de limiter la viande. Donc.
Gildas Benesse, la publicité donc est évidemment aussi omniprésente dans l'espace public. Et à ce titre, vous avez donc une responsabilité aussi très très forte
vis-à-vis
des produits dont vous faites la promotion et qui peuvent aller même à l'encontre des intérêts de la planète. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est remis en cause finalement?
En fait, nous, quand on a travaillé il y a 15 ans sur ces sujets de responsabilité pour notre métier, on a d'abord pensé que notre première responsabilité, c'était l'éco-conception, c'est-à-dire quel est l'impact environnemental de ce que je produis. Quand j'organise le Tour de France, qui a un impact environnemental monstrueux, ou quand je fais un film, ou quand je fais une campagne digitale, ça a un impact. Donc on pensait que c'était ça le sujet premier. Mais en fait, on a réalisé très rapidement que le vrai impact, c'est l'impact sur l'imaginaire collectif, c'est les représentations qu'on véhicule. Nous tous, hein, les communicants, les marques, les médias, quelle est la vision du monde que nous apportons?
Mais est-ce qu'une marque aujourd'hui est capable, dans son message publicitaire, de nous dire, par exemple, de moins consommer? Ça paraît être complètement antinomique à la consommation, à la publicité.
Ça arrive. Nous, on a conseillé une très jolie marque que je vais citer, du coup, qui s'appelle Le Chat Éco-Efficacité, qui est une marque de lessive qui a un écolabel, donc qui a vraiment des vertus en termes d'efficacité par rapport à son impact environnemental. Et on a communiqué sur le conseil aux consommateurs de moins laver, d'utiliser moins de produits, mais peut-être de laver moins souvent. Et en fait, on gagne en confiance de la part du consommateur parce qu'on adresse son intelligence. Et aujourd'hui, quand on dit à un directeur marketing, écoute, peut-être que la solution, c'est de donner comme conseil au consommateur de moins utiliser ta lessive, c'est vrai que c'est disruptif. Mais ça marche parce que tout d'un coup, on a une vraie histoire qu'on raconte et qui est une histoire de conseil, de confiance.
On parle de tout ça avec les auditeurs dans un instant. Et l'éco-communication, on aimerait en savoir un petit peu plus également. Gildas Benesse, vous êtes notre invité et on peut vous poser toutes ces questions au 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Crony, on passe au vert évidemment ensemble avec aujourd'hui un record pour la planète.
Oui, on vient de connaître le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Copernicus, le programme européen de surveillance de la Terre, écrit, je cite, que l'anomalie de température mondiale a atteint plus 0,69 degrés en octobre. 0,69 degrés au-dessus des normales. Le calcul se fait par rapport à ce qu'on appelle la période de référence, 1981-2010. Mais ne me demandez pas une température moyenne globale, Mathieu, ça ne voudrait rien dire à si grande échelle, hein, parce que les disparités sont immenses. Il a par exemple fait très chaud dans l'Arctique, jusqu'à 5, même 10 degrés au-dessus des normales, pendant que l'Ouest américain et le Canada avaient très froid pour un mois d'octobre. En tout cas, l'écart enregistré bat d'un cheveu, un centième de degré, le précédent record d'octobre 2015, qui était à plus 0,68 degrés.
Et en France, Camille?
Alors, je vais vous dire, mais d'abord, j'ai essayé de savoir ce qu'on avait ressenti, nous, et vous allez l'entendre, l'éventail est très large.
Bon, moi, je n'ai pas trouvé ni froid ni chaud.
Plutôt doux.
En octobre, il a fait chaud. Nous, on s'est baigné.
Je ne me suis pas dit qu'il avait fait plus chaud que d'habitude au mois d'octobre.
Il a fait chaud, très chaud.
Je me souviens de moments où on était en t-shirt et de moments où on a mis des pulls.
Je ne me mettais pas les doudounes, quoi.
Je me souviens qu'il faisait plutôt doux, hein. Il faisait beau, c'était cool.
Un mois d'octobre normal.
Alors non, monsieur, le mois d'octobre n'a pas été normal en France, lui non plus. L'anomalie relevée est même encore plus grande qu'à l'échelle du globe, mais ce n'est pas un record. Écoutez les explications de David Salassi-Melia, responsable de la modélisation du climat à Météo France.
Le mois d'octobre 2019 arrive en 10e position parmi les mois d'octobre les plus chauds, avec une température moyenne d'un peu plus de 15 degrés, avec un écart à la normale qui est de l'ordre de 1,6 degrés.
1,6 degré contre donc les 0,69 à l'échelle de la planète. En France, pour rappel, c'est octobre 2001 qui a été le plus chaud jamais enregistré, à 2,8 degrés au-dessus de la moyenne. Mais pour revenir au globe, ces écarts et records en cascade, hein, juin, juillet, septembre 2019 et donc maintenant octobre, ont été eux aussi cette année les plus chauds de l'histoire. Ce sont des révélateurs avec une spécificité.
Pour 2019, c'est un peu différent. On a toujours l'explication du réchauffement climatique de fond qui se poursuit hein, de manière malheureusement et apparemment inexorable, en tout cas qui continuera tant que les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas drastiquement. Mais cette année, en fait, on n'a pas particulièrement de multiplication de phénomènes tels qu'El Niño ou autres phénomènes qui peuvent expliquer des mois chauds pour la planète. C'est un véritable signal qui devrait nous alerter.
Et oui, le courant El Niño avait augmenté la température de l'eau dans le Pacifique Est en 2015 et contribué donc à ce que la planète se réchauffe encore plus. Là, ça se fait donc sans lui.
Je trouve que c'est très inquiétant et je trouve qu'il n'y a pas de mesures qui sont prises. On est un des pires pays en termes d'exemple. Ah ben si, si.
On n'est pas un des pires pays, arrêtez. Alors ça,
Non, non, on n'est pas un des pires pays. Allez dire ça aux Chinois ou aux Indiens.
Ah voilà, il y a débat. Figurez-vous que ces records importent peu, même à certains de ceux que j'ai croisés.
Les scientifiques nous disent que c'est énorme, mais quand on nous dit ça comme ça, un degré de plus, on ne se rend pas compte.
Ça ne m'empêche pas de dormir. Dans la hiérarchie des sujets qui m'inquiètent, il n'est pas tout en haut.
Je le dis franchement, on s'en fout. Je ne suis pas un traumatisé du climat, parce que tout ça, c'est du baratin. Les scientifiques, ils ne servent à rien. Bien sûr qu'il fait plus chaud, mais il y a des années, il n'a pas fait chaud, il a plu.
Ça, c'est la météo, c'est pas le climat.
Ben voilà, mais si, ça revient même.
Ah non.
Indirectement, ça revient même.
Alors donc, on le rappelle, Mathieu, la météo, c'est le temps qu'il fait, le quotidien ou presque, les valeurs et phénomènes localisés et instantanés. Le climat, c'est la tendance de fond sur un temps long, et ça s'apprend en cinquième au passage. Cette maman, elle, résume ce que beaucoup pensent.
Ça doit être forcément un peu inquiétant qu'un mois d'octobre soit si doux, après, dans le confort du quotidien, c'est pas forcément désagréable de pas avoir à sortir des doudounes tout de suite.
Vous hochez la tête.
Non, j'en pense pas.
Donc on dit ça à l'automne et au printemps, mais on le vit un petit peu moins bien quand on suffoque, comme cet été, hein, par exemple, à cause des canicules, qui elles aussi vont se multiplier partout sur la planète, où la température aujourd'hui est 1,2 degré au-dessus de la période pré-industrielle.
Camille passe au vert, et c'est bien sûr à réécouter sur le site de la Terre au Carré.
Gildas Bonnel, même si les gens savent donc quand même pour la plupart, est-ce qu'ils ont encore du mal à faire finalement le lien directement entre ce qu'ils achètent et consomment et ce réchauffement global en l'occurrence ?
Non, en fait, c'est terrible parce que il y a le déclaratif et puis il y a ce qui est vraiment conscientisé dans son geste d'achat. Et encore, votre déclaratif n'est pas, c'est pas un vrai panel. Hein. C'est-à-dire que les Français disent majoritairement que c'est en tête de leur inquiétude devant le chômage, devant.
C'est en deuxième position dans les sondages.
Oui, non. Globalement, là maintenant, on commence à être au-dessus sur la flopée d'études qu'il y a eu récemment. Peu importe. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de déni. C'est un sujet qui est passionnant en communication parce que en fait on se confronte à ce que notre cerveau est capable de fabriquer pour se protéger parce que c'est hyper angoissant. Et donc quand on veut communiquer sur ces sujets-là, surtout, il faut pas y aller avec
les
mauvaises nouvelles parce que à ce moment-là, se met en branle tout un système de défense et de déni et de protection. Donc il faut prendre la main des gens et tranquillement les emmener à la compréhension, à surtout ne pas les culpabiliser parce que sinon on les perd.
Mais dans les messages publicitaires, on parle de réchauffement climatique
aujourd'hui. Oui, bien sûr, dans plein de messages. Ouais. Parce que vous pensez, Marc, mais il y a la communication des pouvoirs publics, l'ADEME qui fait beaucoup de communication. On a plein de sujets qui nous permettent de parler d'empreinte carbone. Mais c'est vrai que je pense à La Poste, la Poste qui est le premier groupe européen à avoir atteint la neutralité carbone il y a déjà plusieurs années. Il souffre aussi d'une méconnaissance des Français qui finalement leur donne pas le crédit parce que aujourd'hui ça veut pas dire grand chose et c'est compliqué hein, de faire un lien entre un chiffre et le climat.
Gildas Bonnel, vous êtes notre invité. Il y a beaucoup de questions pour vous au standard et par mail. À tout de suite avec les auditeurs de la Terre au Carré.
To my favorite show. D2, hold my hand and pull me close next to me, kiss my cheek, cause sunny days. D3, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Will you step river for me? What's in yours to obtain? What's my fruits of a taking? And you flow through my veins. Do you still think I'm beautiful when my tears fall like rain? My love is so bountiful. For a man who's true to me. Still be there for me. Now I'm yours to obtain.
FKA Twigs Future, c'était Holy Terrain.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, Gildas Bonnel, publicitaire et président donc de Cidiez, également de la commission développement durable de l'association des agences conseil en communication. Il y a beaucoup de messages de la part des auditeurs, donc on va tout de suite aller au standard, retrouver Florence qui nous attend. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
À vous, Florence.
Merci de m'accueillir.
On vous écoute, on écoute votre question.
Oui, alors ma question, c'est que je m'interroge beaucoup parce que je vois de plus en plus dans les gares, et notamment la gare Saint-Lazare, par exemple, des écrans publicitaires, là où il n'y en avait pas, et ces écrans sont des écrans numériques. Mmh. Donc on est harcelé par ces écrans numériques, il y en a de plus en plus, et ça me pose la question déjà de la publicité, encore de la publicité, et aussi des ressources qu'il faut pour ces écrans, dont on ne sait pas comment les recycler.
Alors, Gildas Bonnel, très bonne question de Florence sur l'aspect énergivore de ces écrans et aussi des supports de la publicité elle-même, hein, qui les utilise donc abondamment.
J'ai pas le droit de passer mon tour ?
Non,
non,
absolument
alors,
pas.
Alors, je m'occupe malheureusement pas de médias, mais j'ai un avis de professionnel et de citoyen. Je pense que ça va pas dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, les professionnels de l'affichage disent que c'est une alimentation qui est très faible et ça permet surtout d'éviter des coûts logistiques de déplacement, de matérialisation. Je n'ai pas d'éléments de preuve pour pouvoir répondre à cette question, j'en suis sincèrement désolé.
En tout cas, ces panneaux hérissent le poil de tout le monde
oui,
en ce moment.
Oui, je sais. Bah oui, je comprends. C'est surtout, c'est un problème d'intrusion surtout. C'est-à-dire que tout d'un coup, la publicité prend de plus en plus de place. Elle happe votre regard. Et c'est vrai aussi sur les PC, sur les tablettes. Donc on a un vrai problème d'acceptabilité. Moi, je dis à mes petits camarades des médias que j'aime beaucoup, qu'il ferait bien de faire attention. Vous avez le même problème sur France Inter avec des écrans publicitaires qui passe et pour lequel vous n'êtes pas forcément en alignement. Donc, il faut faire attention parce que là, il s'agit d'acceptation sociale. Donc, il faut...
Il y a une question de Raymond. Tiens, on va le prendre tout de suite au standard à ce sujet. Bonjour, Raymond.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous. Je crois que ça concerne les voitures, justement. Allusion de Gildas Bonnève aux pubs pour les SUV, par exemple, sur notre antenne, qui nous hérisse aussi le poulailler, on doit vous le dire. On vous écoute.
Alors, écoutez, à part votre antenne, je constate à la télévision des pubs, mais d'une façon... je veux dire dévorante, enfin ou débordante dans tous les sens. L'importance des cylindrées, disons les gros cylindrées qu'on voit beaucoup sur les routes, la publicité est absolument donc on va pas vers un ralentissement du trafic des voitures sur les routes, bien au contraire, je pense que les choses vont en s'augmentant grâce à la publicité. Pour ma part, je souhaitais faire part d'une expérience personnelle. J'ai une petite cylindrée. J'ai fait le choix sur les grandes routes. J'ai l'occasion de traverser la France du nord au sud ou d'est en ouest. Tout simplement de ralentir un petit peu. Au lieu d'être pressé de faire la route, ma moyenne de voiture, même sur autoroute, elle tourne autour de 100 à l'heure. On prend son temps, on est un petit peu moins stressé. On arrive un peu plus tard, mais on fait de grosses économies de carburant, économies financières pour les personnes. Peut-être qu'en cas d'accident, eh bien, on est aussi un petit peu moins en risque et en danger. Mmh. Ne fait que cumuler davantage et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment.
Alors,
c'est un sujet sur lequel il faudrait alors, peut-être.
Je vais essayer de vous répondre. Essayer de vous répondre pour vous dire que j'espère qu'il y a des campagnes de communication de la prévention routière, entre autres, qui vous invite à respecter le bon kilométrage sur la voie. Donc, c'est difficile. Mais pour répondre sur les voitures, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, et particulièrement en télé, on voit beaucoup, beaucoup de publicité. Je ne sais pas s'il y a un effet contextuel, puisqu'il va y avoir un changement de la réglementation. Peut-être que les constructeurs sont en train de déstocker. Mais sachez une chose, c'est que la publicité, quand vous dites la publicité, derrière, il y a aussi un enjeu très important qu'on a du mal à apercevoir, c'est que on a un intérêt aujourd'hui climatique à transformer le parc automobile français. Alors bien sûr, surtout pas avec des SUV parce qu'on sait le niveau de leur émission, mais en revanche on a quand même, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, on a quand même intérêt aujourd'hui à ce que les gens qui sont obligés de prendre leur voiture prennent une voiture de meilleure qualité et de nouvelle génération.
Vous nous ferez prochainement une enquête auprès de la régie publicitaire de Radio
France,
Camille.
Oui, c'est prévu. Question de Rémi via l'application France Inter, Gildas Bonnel. Est-ce que la pub n'est pas intrinsèquement synonyme de consommation, surconsommation et donc par définition non durable?
Alors la publicité vient de ce temps-là de notre civilisation et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a au Parlement et dans la société beaucoup de questions sur la surconsommation. C'est vraiment un sujet qu'on regarde de très très près. Je pense que nous ne sommes pas inféodés à ce modèle de consommation, que nous sommes dans une société de consommation, mais qu'il va falloir aujourd'hui bien communiquer le changement de comportement de chacun, parce que c'est difficile de quitter sa voiture pour prendre un vélo, même à assistance électrique, c'est compliqué. Donc on a besoin d'expliquer les bénéfices, on a besoin de communiquer là-dessus. Je pense qu'on est sorti de cette époque-là, c'est douloureux.
Vous nous dites que la pub, finalement, elle a ce rôle-là aussi, pédagogique à jouer.
Elle a ce rôle-là toujours, c'est-à-dire que dans une agence, vous pouvez avoir une campagne, et c'est là où on est paradoxaux, mais on est comme tous les Français, on peut vendre une voiture et le lendemain faire une campagne pour un vélo à assistance ou pas.
Yves nous écrit un message intéressant, il nous dit « La publicité cherche à montrer que les marques peuvent assouvir tous nos désirs et pourtant les enjeux environnementaux nous amènent à recentrer entre autres nos achats sur du local et sur la saisonnalité. Ça va donc passer, dit-il, par réapprendre à gérer nos frustrations, ce qui est exactement l'inverse de la pub. »
Je trouve que c'est vrai parce que la publicité, elle dans ses formats, elle excite en fait. Ça va vite, ça se voit vite, c'est puissant, donc ça vient vous titiller. Mais encore une fois, la communication n'est pas que la publicité. Il y a plein de façons de mettre en œuvre des changements de comportement, des changements d'usage, voire une nouvelle consommation. Donc je voudrais juste faire la différence avec ça. C'est vrai que la publicité vient des 30 Glorieuses. Je pense que les formats qu'on a aujourd'hui ne sont pas les formats que nous aurons dans 10 ans. Mais méfions-nous quand même, je voudrais le dire avant de vous quitter, méfions-nous quand même. Quand il n'y a pas de publicité, les marques, les messages consuméristes sont ailleurs. Voilà, la publicité, c'est un écran, c'est un cadre dans un journal, c'est un écran à l'antenne. On sait qu'une marque vous parle et donc vous avez une distance en tant qu'auditeur. Alors que quand ça se promène dans du contenu sur YouTube, auprès d'influenceurs, ça devient plus difficile et je pense que c'est important de tracer les messages commerciaux.
Mais l'objectif, c'est quand même de vendre, que ce soit publicité ou communication, de vos clients. D'ailleurs, RTA fait partie de vos clients.
Oui, absolument. Le but de la publicité, c'est de vendre ou en tout cas d'accompagner un changement de comportement. C'est-à-dire choisir un produit plutôt qu'un autre. Moi, j'ai jamais vécu dans un système où on n'avait qu'une seule marque de jambon ou de brosse à dents. Aujourd'hui, l'intérêt que nous y voyons encore, c'est de permettre de rendre public, c'est l'étymologie du terme publicité, de rendre public des bénéfices de différents produits pour que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Français veulent de l'information sur les produits. Ils veulent pas du rêve, ils veulent pas qu'on leur raconte une belle histoire. Ils veulent avoir de l'information.
Ouais. Jean-François nous dit, j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi la Poste est neutre en carbone avec les transports qu'elle nécessite, les agences et les placements financiers des CCP dans des entreprises écologiques comme Total. On se demande bien comment ils arrivent à être neutres en carbone.
Alors la neutralité carbone,
vous avez 15 secondes.
Oui, la neutralité carbone, ça sera je pense une autre émission. C'est compliqué, ça veut dire diminuer ses émissions carbone et après faire de la compensation carbone. Alors je sais que pour beaucoup, c'est peut-être payer un chèque ou passer à Confess, mais en tout cas, c'est des investissements très importants pour contenir. Quand on paye un chèque tous les ans pour sa compensation carbone, on a intérêt à limiter ses émissions par pure économie. Mais je sais que j'ai mal répondu à cette question.
Désolé. Merci beaucoup, en tout cas, Gildas Bonnel, d'être venu aujourd'hui au micro de la Terre au Carré. Juste après les infos, ce sera le feuilleton de la semaine avec des portraits cette semaine autour des mal-aimés de l'écologie. Et après une agricultrice hier, Antoine Lee a rencontré un chauffeur routier avec lequel vous ferez connaissance donc dans quelques minutes.
France Inter, la Terre au carré.
Au menu de notre demi-heure, vos solutions pour la planète, nous serons avec Mélodie. C'est une auditrice de Pau qui va nous parler d'une association sans territoire, c'est en un seul mot, qui s'intéresse au rapport entre la santé et les environnements de vie. Et puis enfin, nos invités découvertes, ils seront deux, le professeur Feuillage, alias Mathieu Duméry, et le chercheur Éric Chaumillon pour un livre intitulé « Et la mer monte » ou « La chronique d'une vague annoncée ». Mais pour le moment, c'est un nouveau portrait de votre série sur les mal-aimés de l'écologie. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous nous proposez de monter dans le camion d'un chauffeur routier.
Oui, les poids lourds sont l'une des principales cibles des défenseurs de l'environnement. Pollution au dioxyde de carbone, aux particules fines, les routiers sont bien souvent pointés du doigt. Alors je me suis rendu chez le transporteur Préma dans l'Essonne, une société créée il y a 94 ans. Aujourd'hui, ses 500 chauffeurs et camions parcourent 35 millions de kilomètres par an. Christophe Auvion y travaille depuis 29 ans. Il a vu évoluer son métier, notamment en matière d'environnement. Il a accepté de me faire monter dans son gros camion flambant neuf.
On va reprendre la nationale pour retourner charger, faire un chargement.
Vous, Christophe, vous transportez quoi ?
Donc moi, uniquement des hydrocarbures, donc tous les samplons, gasoil, pour ravitailler les hypermarchés grandes surfaces ou les stations pétrolières.
On dit souvent camionneur, transporteur, pollueur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Enfin, je me sens pas pollueur. Quand je réalise que les camions, à l'heure actuelle, consomment entre, on va dire, au plus bas, 25 litres au 100, jusqu'à 33. Seulement, nous, on transporte 44 tonnes de marchandises. Une voiture, à l'heure actuelle, où je vois une personne dedans, la voiture, elle va consommer du 5 litres, voire jusqu'à du 9 litres, voire 10 litres, des fois. Et elle est toute seule, la personne, dans la voiture. Donc, je voudrais bien qu'on me dise quel est le plus pollueur des deux. On nous rabâche à longueur de journée, les camions, ça pollue. Seulement, s'il n'y a pas de camion, eh ben, il n'y a pas de matière première dans les grandes surfaces, il n'y a pas de matière première, il n'y a rien. Il n'y a rien qui arrive dans les magasins. Donc, les gens, ils vont faire comment pour manger, pour aller au travail. Nous, les chauffeurs routiers, on nous pointe toujours du doigt. Je trouve ça complètement juste. Nous, on est là pour travailler, on est là pour faire un métier. C'est pas agréable de vous dire que vous êtes pollueur. C'est pas la pollution qui gêne le plus. On pollue le minimum de ce que, quand vous transportez un certain tonnage, bah, de toute façon, le camion, à part le pousser ou à part le faire tirer avec des chevaux, obligatoirement, il y a une consommation de gasoil. Donc, je peux pas dire qu'il n'y a pas de pollution, mais par rapport à une voiture, je vous dis, c'est pas possible. En 30 ans, on a réduit de 97% les émissions de particules fines. Ça pollue ce que ça doit polluer, mais enfin vraiment, c'est ce que on peut pas descendre plus bas. On est dans les nouvelles normes Euro 6, c'est des véhicules avec des normes Euro 6. On peut pas avoir mieux, c'est pas possible. Chez nous, en interne, on a adopté la conduite éco-responsable. On a des formateurs qui viennent avec les chauffeurs. Et puis nous, en tant que chauffeurs, du coup, on applique cette conduite éco-responsable. Donc c'est basé sur l'anticipation, dans les ronds-points, sur les feux rouges. On regarde loin, on voit si le feu est rouge. Ça sert plus à rien d'accélérer, de consommer. On lâche l'accélérateur, on laisse l'inertie du véhicule, le poids du véhicule faire son travail. Et de manière à ce qu'on arrive, quand on n'a même pas besoin de freiner, si tous les automobilistes adoptaient cette conduite-là, les consommations descendraient sur les voitures, mais d'une manière impressionnante.
Là, on est dans votre camion, là, un camion hyper récent. Il y a tout plein de choses qui sont indiquées là sur votre tableau de bord.
Alors, ce camion-là, il est relié par géolocalisation, constamment. Ça veut dire qu'il connaît le dénivelé de la route. Avec ce camion-là, si vous roulez au régulateur de vitesse, vous vous mettez à 75, il sait s'il y a une côte, il sait s'il y a une descente, il sait tout. Quand il va arriver, toujours au régulateur de vitesse, il va arriver sur une côte, avant la fin de la côte, il va arrêter d'accélérer parce qu'il est géolocalisé, il sait que derrière, il y a une descente. Donc il va lâcher l'accélérateur, donc ça va faire une économie de gasoil. On améliore énormément notre consommation. Donc quand on nous parle de pollueurs, Oui, je suis en colère.
Pour le coup, il n'est pas terrible, le klaxon. Le camion est super, mais le klaxon est nul.
C'est vrai que ça m'avait marqué.
En même temps, Christophe, voilà, on a croisé plein de vos collègues, ils n'ont pas vos camions, quoi, hyper technologiques.
Il y a des camions qui polluent, je peux pas dire le contraire. Ils laissent le moteur tourner, ils livrent un client, ils en ont pour 5 minutes, ils vont pas trouver l'intelligence de couper le moteur. Bah, un moteur qui tourne même 5 minutes, c'est un moteur qui pollue. Nous, à l'heure actuelle, on a des camions, le moteur se coupe au bout de 3-4 minutes, si on le laisse au ralenti. Et ça, c'est mis en place justement pour ne pas polluer. Sur des petits véhicules de petite distribution, ça devrait exister.
Sachez que Philippe Préma, le patron de cette société de transport routier, va mettre en place une prime pour les chauffeurs qui auront la meilleure conduite éco-responsable. Moins ils pollueront, plus ils gagneront d'argent, jusqu'à 200 euros par mois.
Et demain, Antoine, nouveau portrait.
Eh ben demain, je vous emmène dans un poulailler à la rencontre d'un éleveur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne partira jamais en vacances avec les militants véganes.
Bien, toujours autour des mal-aimés de l'écologie. À demain, Antoine Lee, merci.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Je vous emmène à Pau, Camille, ça
ah,
vous fait
cool.
plaisir.
Oui, j'aime bien Pau.
Voilà, on retrouve Mélodie qui nous attend au bout du fil. Bonjour Mélodie.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous dans la vie. Mélodie, vous êtes architecte et présidente de l'association Sans Territoire. Donc j'ai dit tout à l'heure, c'est en un seul mot. Et vous aviez justement envie de nous en parler. Racontez-nous d'abord, quelle est la vocation de cette association?
Alors, donc cette association, c'est une association qui est assez récente, puisque donc on l'a créée l'année dernière, donc fin 2018, avec Clément Crozet qui est écologue. Et donc l'objectif de cette association, c'est de mettre en lumière des initiatives d'aménagement du territoire et d'architecture qui sont favorables à la santé des territoires. Donc pour étudier en fait les rapports entre la santé des humains et les environnements de vie dans lesquels ils se trouvent.
Et alors tout ça, c'est dans l'idée de réaliser une architecture qui prend en compte donc la santé des humains et l'environnement, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En fait, de réaliser ce qu'on appelle une santé partagée. Donc pour ça, en fait, on se base sur des études des experts en santé publique qui montrent que 15% de l'état de santé d'une population est lié au système de soins. Donc le système de soins où on retrouve les hôpitaux, les médecins, etc. Et qu'en fait, il reste 85% où on retrouve les environnements de vie dont font partie l'architecture, la biodiversité ou encore l'alimentation, etc.
Qu'est-ce que vous avez comme exemple alors de lieu ou d'initiative qui est bonne donc à la fois pour la santé des humains et des territoires?
Alors donc en fait ce qu'on a fait c'est que donc on a plusieurs initiatives qu'on a retrouvées en Europe. Donc pour ça on a fait un tour d'Europe pour aller voir ces initiatives là. Donc on a juste par exemple comme initiative le Maggie Center qui se trouve à Oxford et donc il y a un centre qui a été développé par Maggie Jeng donc en 93 qui était atteinte d'un cancer et qui a décidé de développer en fait des centres à proximité des hôpitaux où en fait les personnes qui étaient malades pouvaient venir se ressourcer dans ces lieux-là. Donc en fait c'est une architecture qui a été développée en lien très fort avec la nature et la biodiversité qui se trouve autour. Et donc en se basant sur les études, en fait les gens qui ont vu sur un espace naturel dans les hôpitaux guérissent plus vite si leur chambre donne justement sur cet espace-là, sur ce jardin, plutôt que sur un mur mitoyen.
Oui, c'est des études scientifiques dont on avait parlé d'ailleurs, je me souviens, dans La Tête au Carré. Donc concrètement, c'est-à-dire que les architectes s'en emparent pour construire des lieux qui favorisent cette proximité avec la nature.
Voilà, exactement. Et en même temps, l'objectif, c'est de développer en fait ce que nous, on appelle une santé partagée. Donc, c'est-à-dire pour favoriser à la fois la santé des humains et en même temps la santé de la biodiversité. En fait, dans un objectif commun.
Donc, et là, oui. Et chez vous,
en fait,
allez-y, Mélodie.
Voilà, oui. Il s'agit en fait d'habiter nous nos lieux de vie et en même temps de cohabiter en fait avec l'ensemble des êtres vivants.
Et alors, chez vous à Pau, il y a des exemples aussi qui peuvent rentrer dans ce concept de santé partagée.
Oui, alors à Pau, donc on a développé, là on est en train de développer sur un projet donc avec le tennis club de Pau, un bâtiment où on développe le concept d'écotone. Donc en fait l'écotone c'est en écologie du paysage, donc c'est une zone de transition entre deux écosystèmes. Donc c'est des espaces de circulation en fait qui sont entre deux, donc par exemple la lisière d'une forêt, donc entre la forêt et un chemin par exemple. Mmh. Et en fait dans ces espaces-là on retrouve plus de diversité. Donc nous, ce qu'on applique, c'est se dire qu'on peut appliquer ce système-là à l'architecture et en fait retrouver ces écotonas de manière horizontale et verticale. Donc par exemple, à Pau, ce qu'on a développé, c'est de le retrouver en fait au niveau des murs pour qu'en fait les murs soient des espaces de connexion entre la toiture qui est végétalisée et en fait le sol où on retrouve une pelouse. Donc par exemple, en fait, il faut savoir que par exemple le bourdon ne peut pas aller butiner à plus de 4 mètres de haut. Et donc en fait il a besoin en fait de ces paliers pour accéder aux toitures végétales.
Est-ce qu'il y a des études qui montrent les effets justement de ces initiatives là d'architecture en lien avec l'environnement des personnes? Est-ce qu'on a déjà l'occasion de pouvoir tirer un premier bilan de ce qui est fait autour de cela?
Oui, alors justement sur les études, ben au niveau des hôpitaux, justement comme on disait tout à l'heure avec avec justement l'influence positive d'un élément de la nature sur la santé. Mmh. Et en même temps montrer aussi donc en santé publique que justement bah, seulement en fait 12 à 15% de l'état de santé d'une population est lié au système de soins, et donc que les environnements de vie influencent énormément. Et puis on se rend compte aussi que bah, notre santé finalement elle est directement liée aux écosystèmes dans lesquels on habite. Donc par exemple juste avec la disponibilité d'un territoire en eau douce, en eau potable, mmh. ou la qualité des sols aussi, par exemple pour l'alimentation, pour avoir une alimentation biologique, voilà ce que l'on va retrouver dans le sol, et que finalement bah, plus la biodiversité va être en bonne santé, meilleure notre santé va l'être.
Et il y a une exposition hein, autour de ce concept de santé partagée pour des environnements favorables aux vivants. C'est le nom de l'exposition qui a lieu en ce moment même jusqu'au 21 novembre chez vous à Pau, Mélodie. Hein, c'est au sein du département des Pyrénées-Atlantiques, avenue oui. Jean Biret. C'est au numéro 64 pour être tout à fait précis. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour aller vous voir et pour en savoir plus. Il y a également le site hein, santerritoire.com, histoire d'aller plus loin pour ceux qui sont intéressés par ce que vous venez de nous dire. Merci Mélodie en tout cas d'être passée par chez nous aujourd'hui. Et
bah,
au plaisir
vous.
De vous retrouver. À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Allez, dans un instant, nos invités découvertes nous présentent un livre iconoclaste sur la mer qui monte.
Je ne suis pas chez moi, chez moi. Je ne suis pas.
C'était la voix de Lolo Zouaï.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Et la mer monte, chronique d'une vague annoncée. C'est donc un livre qui paraît chez Plume de Carotte avec le parc naturel régional du Marais Poitevin. Et je reçois deux de ces trois auteurs, Éric Chaumillon et Mathieu Dumery. Bonjour à tous les deux, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour et merci.
Bon, on va tout de suite citer le troisième comparse de l'équipe. Hein, c'est Guillaume Bouzard qui a fait les dessins. Éric Chaumillon, vous êtes professeur en géologie marine à l'Université de La Rochelle, spécialiste de l'environnement des littoraux. Et Mathieu Dumery, vous êtes comédien, journaliste, animateur. On vous connaît sur YouTube en tant que professeur feuillage. Comment un prof d'université et un youtubeur et un dessinateur se retrouvent donc pour un livre comme celui-là aujourd'hui?
Eh bien, en fait, l'idée vient de moi parce que j'avais fait pas mal de conférences grand public et je m'étais aperçu de trois choses. Première chose, en fait, j'avais pas mal de personnes âgées, alors que je m'adresse aussi à la génération qui va être en fait impactée de plein fouet par le changement climatique. J'avais pas toujours du succès, hein, c'est un peu comme les groupes de rock là qui font des salles à moitié vides. Et puis, en fait, je suis assez peut-être parfois anxiogène parce que le discours scientifique est alarmant. Et donc, ouais. Du coup, l'idée est venue de contacter des artistes pour toucher la corde sensible et en particulier aussi des artistes qui savent faire rire, et c'est vraiment le cas de Mathieu et de Guillaume, chacun ouais. À leur façon.
Voilà, donc Mathieu Dumery, vous avez voulu rajeunir finalement la présentation du scientifique, comment ça s'est passé?
Non, j'aurais pas cette prétention. Éric m'a contacté, il faut savoir c'est que Éric est un professeur universitaire mais qui a quand même la capacité, contrairement à beaucoup de ses confrères, à être scénique comme garçon. Il est particulièrement, voilà, il fait de la musique dans la vie. Il est, voilà, il a déjà quelque chose de fun en lui, ce qui est pas le cas de tous les universitaires. Ouais. Donc c'est vrai que moi je suis arrivé, ils m'ont proposé ça, j'ai fait, c'est exactement ce que je veux faire.
Le show scientifique, quoi.
C'est soit l'un soit l'autre. C'est vrai que pour avoir de la crédibilité aujourd'hui, il faut avoir des scientifiques derrière. Moi, j'ai pas cette crédibilité parce que j'ai toujours été un très mauvais élève. Je suis vulgarisateur. Et Eric, quant à lui, avait besoin peut-être de quelque chose de plus poète tagada pour amener du fun voilà, pour mettre un glaçage sur cette information qui est souvent anxiogène. Et cette rencontre, elle est super intéressante parce que même moi, j'apprends beaucoup. Et le fait d'être confronté à des vrais gens dans des vraies salles et plus à des vidéos et des internautes dans les commentaires, ça m'apporte beaucoup.
Mais alors là, vous nous parlez comme si vous faisiez un duo ou un trio sur scène, sauf que c'est un livre avec des dessins. Comment on arrive à sensibiliser un public, donc jeune plutôt, à travers des dessins, de l'écriture et surtout de la lecture, Éric Chaumillon?
Sur un thème comme celui-là, en plus. Hein.
En fait, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les conférences ont eu du succès. On a fait des salles pleines, alors à La Rochelle, à Rochefort, à Niort, à Luçon, enfin dans toutes les villes du centre-ouest. Là,
le Poitou-Tour.
Une vraie tournée.
Ouais, voilà.
Le Poitou-Tour.
Bah, ceux qui vont être directement impactés par la montée des eaux.
C'est
aussi,
ça, en fait, c'est les zones les plus vulnérables. Et puis du coup, vu le succès, à un moment donné, s'est posé la question des actes d'un colloque, parce que la première expérience donc qui a été finalement accompagnée par le parc naturel régional du Marais Poitevin.
Tu viens de gagner 20 euros, ils nous payent à chaque fois qu'on les cite.
On voit bien.
Et donc est venue la question des actes du colloque. Alors j'avais eu plusieurs expériences, les actes en français, les collègues rushing à le faire parce que c'est pas une revue internationale de rang A, ou alors l'article qui synthétise tout, mais ça c'est moi qui ai dû le prendre en charge, c'était extrêmement chronophage et un peu douloureux, faut bien le dire. Et là je me suis dit, mais finalement, comme le grand public est demandeur, comme il y a du monde, pourquoi on ferait pas un livre grand public? Et finalement, bah voilà, on a repris cette conférence là, ce show, et on l'a mis en écriture. Voilà, et surtout il y a aussi les dessins de Guillaume qui apportent énormément, la mise en page de Plume de Carotte là, qui est assez extraordinaire, qui donne envie de le lire, ouais, je trouve.
Alors on va sur scène, hein, pour comprendre le cheminement, voir un petit peu comment ça se passe lorsque vous êtes réunis tous les deux.
J'ai été à la fac et je me suis fait chier pendant des heures à écouter des gens qui parlaient sur scène. L'objectif aussi, c'est que vous, à n'importe quel moment de cet échange, vous leviez la main. Bon, alors, va falloir lever ou crier, ou dire, parce qu'on va pas vous voir. En fait, les lumières sont vraiment trash. Donc, vous faites, question! Et à ce moment-là, on arrête. Vous avez 10 secondes pour poser votre question. Et Eric, ou moi, mais je pense Eric, aura 20 secondes pour y répondre.
Alors donc maintenant, il y a le livre, hein, qui est arrivé, déclinaison après donc ce show scientifique, avec un départ d'ailleurs sur l'histoire de l'Anthropocène. C'était important pour vous de resituer finalement l'impact humain dans cette affaire de réchauffement climatique et d'environnement?
Ouais, tout à fait, ouais, parce qu'en fait, grosso modo, il y a trois temps dans le livre. Au départ, c'est une remise au point sur le changement climatique et l'Anthropocène. Ça semblait essentiel parce que malgré tout, il y a quand même du climato-scepticisme, on le sait. Et puis aussi, même par rapport à l'Anthropocène, qui est un concept que auquel moi j'adhère complètement. Voilà, il y a des gens qui finalement ont tendance à dire oui, c'est un peu une histoire de mode, etc. Donc je voulais vraiment remettre les choses au point par rapport à ça. Mmh. Et puis après, ensuite, on parle des conséquences. Donc le niveau de la mer. Alors là, il y a pas mal de détails parce que voilà, dire la mer monte à 3,2 mm par an au niveau global. C'est bien, mais il y a tellement de choses différentes, de facettes différentes en fonction des types de côtes. Et puis enfin, on termine avec l'invité surprise, les sédiments et puis les capacités d'adaptation des systèmes littoraux. Voilà.
Le tout, enfin, on vous rigolez en disant c'est pour rigoler, attirer le public, mais le tout, c'est quand même, il y a des graphiques, il y a beaucoup de contenu, hein. C'est pas juste un livre fait pour être feuilleté comme ça. Il y a énormément de connaissances à l'intérieur.
Il y a de la science, il y a de la science, monsieur.
Oui. Bon, alors évidemment, moi, j'ai on a beaucoup travaillé avec Mathieu, avec le parc du Marais Poitevin.
Et 20 euros.
Ils ont essayé de me canaliser parce qu'en fait, évidemment, il y a tellement de choses derrière tout ces concepts, donc j'ai essayé de faire un texte le plus synthétique possible, le plus court possible.
Et l'apport du professeur Feuillage, alors c'est quoi là-dedans? Vous avez votre petite minute, quasiment toutes les deux pages.
Comme je suis pas un scientifique, j'ai besoin d'être intéressé et d'intéresser les gens en prenant chacun des grandes thématiques qui sont autour de la mer qui monte, du niveau de la mer qui monte, par des infos insolites, par des détails croustillants, des petites histoires, parce que c'est comme ça, moi, que je suis arrivé à l'écologie, c'est par ces petites histoires. Donc, à chaque fois qu'un thème est abordé, j'ai quelques lignes qui me sont réservées pour à la fois mettre un peu d'humour, sans censure d'ailleurs, je dois le reconnaître, et aussi raconter une petite histoire parce que je pense que les gens sont happés plus facilement par justement ce petit détail croustillant, la petite idée reçue. Et moi, sinon je m'ennuie dans la vie si je fais pas ça.
Bon, Éric Chaumillon, c'est pas toujours simple effectivement de parler du niveau de la mer qui monte, surtout dans votre région, sur cette façade ouest, parce qu'évidemment elle a été touchée très directement avec la faute sur mer par exemple en 2010, hein, que plusieurs morts, 29 morts exactement là-bas.
Ouais, c'est ça. Non, un peu plus, quasiment une cinquantaine de morts en tout. Ouais.
Et alors donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que scientifique quand on travaille sur ces questions-là dans ces régions particulières? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? Quel est le message qu'on peut délivrer au public qui évidemment est concerné?
Voilà, alors en fait, effectivement, c'est le type de recherche où c'est difficile de pas être happé par la demande sociétale, comme on dit. Et bon, moi, je me prête au jeu parce que je pense qu'on dépense pas mal d'argent public, hein, dans nos recherches et que c'est essentiel de rendre ce service public, de donner des conseils, en tous les cas, de dire ce qu'on comprend sur ces phénomènes-là. Et ce dont on s'est aperçu, effectivement, bah, c'est que voilà, les coûts des défenses de côte après Xynthia, c'est plus de 380 millions d'euros. C'est très très cher. Et puis, on a abouti à des situations un peu bizarres où vous avez des territoires qui sont aujourd'hui, hein, j'insiste bien, aujourd'hui, 2 à 3 mètres sous le niveau des mers. Donc, quand on regarde les projections, si on fait rien, si on prend ce fameux scénario 8.5, là, c'est-à-dire le business as usual, si on ne fait rien et qu'on a effectivement un mètre de plus au pire, voire encore plus pour certaines projections, on va se retrouver avec des territoires 3, 4, 5 mètres sous le niveau des mers et ça va plus être tenable. Mmh. Alors déjà, ça coûte cher. En plus, ça va être une situation un peu explosive. Donc, il faut envisager autre chose. Et ce livre montre à la fin en particulier toutes les options qu'on a à renaturer les systèmes littoraux, à laisser une bande naturelle qui est résiliente en plus, qui va se défendre d'elle-même entre les sociétés et la mer qui attaque.
Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut imaginer changer de territoire, déplacer les populations, même chez nous en France?
Oui, je pense que à un moment donné, il va falloir aussi passer par cette option. C'est-à-dire que vous avez trois options. Il y a vraiment la défense en dur. Il y a l'adaptation avec, comme je l'expliquais, la renaturation de systèmes côtiers. Et puis, effectivement, je pense que dans certains cas, il va falloir déplacer des populations. On commence à y penser sérieusement. Et là, effectivement, il y a des problèmes juridiques, des problèmes aussi financiers, parce que ça va pas être très simple.
Voilà différentes façons de parler de ce thème de la hausse du niveau de la mer avec cette chronique d'une vague annoncée publiée donc chez Plume de Carotte avec Mathieu Dumery et Guillaume Bouzard. Vous allez refaire de la scène tous les deux ou pas? Il y a des choses qui vont revenir?
Eh bien, nous serons à la salle de Lancan à La Rochelle, une très belle salle de presque 900 places, le 26 novembre avec notre ami, on peut le dire?
Bah oui, je crois qu'on peut le dire.
Avec Max Bird. Donc on sera 3 sur scène et toujours Guillaume Bouzard au dessin. Et on a très hâte.
Votre chaîne Feuillage, toujours, pour ceux qui souhaitent aller voir vos œuvres sur YouTube, Mathieu.
C'est pas tout public, c'est le meilleur moyen d'en faire de la pub.
À très bientôt. Et La Mer Monde, publié donc chez Plume de Carotte. Merci à vous deux.